Allez, notre invitée fil rouge aujourd'hui, c'est Colette Berthès. Elle signe un roman aux éditions de Boré intitulé « Une infinité de matins ». Sorte de phare-bique et bique-phare, une infinité de matins raconte l'histoire d'une ferme du Quercy depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 21e. Je parle de phare-bique et bique-phare, ce double documentaire qui raconte l'histoire d'une ferme avant le modernisme et après, mais ça se passe dans l'Aveyron. Ici, Colette Berthès, vous avez choisi comme paysage les Cosses du Quercy pour votre roman Une infinité de matins. Oui.
Mais c'est très proche du Quercy et ouais. C'est à peu près le même genre de vie et d'agriculture et c'est à peu près ce qui s'est passé là et ailleurs.
Colette Berthès, avant de parler du roman Une infinité de matins, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. C'est combien de romans vous avez écrit aujourd'hui ?
Alors, romans et pas seulement des romans et ouvrages, soit seul, soit participé à des livres collectifs, ce doit être le 11e ou le 12e, peut-être oui. Bien le 12e, oui.
Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, sur le terrain de l'écriture ?
Disons que j'ai commencé à écrire toute jeune, quand j'avais 11-12 ans, dans des cahiers d'écoliers, où je faisais aussi les dessins et j'inventais des histoires que je lisais à mes cousins et j'ai toujours écrit d'une manière ou d'une autre. Je me suis même essayée un peu à la poésie à un moment. Mmh. Voilà, j'avais même eu un prix une fois, mais bon, c'était il y a longtemps. Et puis la vie a fait, je suis dans de nombreuses associations, je suis militante par ailleurs, j'ai eu des enfants à élever, des amis, la famille.
Vous avez eu un métier ?
J'ai eu plusieurs métiers, ouais. Plusieurs métiers. Et disons qu'en 2000, j'ai eu la chance de pouvoir éditer mon premier livre qui s'appelait « La machine à tuer » et qui racontait justement un parcours d'activisme autour de la défense d'un condamné à mort texan qui était innocent et qui avait agité toute la France, l'Europe et même plus loin.
Je cherche son nom.
Odell Barnes.
Odell Barnes, oui, je vous avais reçu
donc,
à l'époque pour ça.
Voilà,
oui.
Tout le monde en avait parlé, mais pas seulement en France. Mmh. Et ce garçon qui était innocent, pour lequel on avait financé une contre-enquête, des avocats, des enquêteurs que Jack Lang était allé voir dans le couloir de la mort. Donc ça avait vraiment remué beaucoup de monde. J'ai eu la chance de pouvoir l'éditer dans une petite maison d'édition, le livre, qui s'appelait Les Arènes, qui est devenue maintenant une grande maison d'édition, mais qui à l'époque démarrait. Et c'est là que les éditrices qui s'occupaient de ce livre m'ont dit que je devrais continuer à écrire, qu'il ne fallait pas que je m'arrête après ce livre-là, vu ce que c'était, ce que ça avait donné. J'ai écouté leurs conseils, j'ai continué et je suis toujours en train d'écrire.
Plus de 20 ans après, dans des sujets très différents, avec toujours un petit côté militant quand même. Hein.
Alors militant, je ne sais pas parce que je ne me considère pas non plus comme une grande militante par rapport à d'autres qui font énormément de choses, mais en tout cas je me sens concernée et investie sur plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Et en particulier ceux qui sont autour de moi, ici dans le Quercy. Par exemple, je me suis intéressée au camp de Jude, à Sept-Fonds, le camp des Républicains espagnols, parce que je suis de Sept-Fonds et que j'ai toujours connu cet endroit, le camp des Espagnols. Et je me suis intéressée voilà, à divers autres sujets. L'agriculture dans le dernier livre, parce que je viens du côté paternel d'une famille agricole de petits paysans pas très riches, et même pauvres, et que j'ai vécu jusqu'à mes 16 ou 17 ans en contact très, très rapproché avec ce monde-là. Voilà, donc les sujets, il faut qu'ils me tiennent à cœur pour que je m'y intéresse. Mmh. Et c'est vrai que je les défends, mais en même temps, je ne dirais pas que je suis militante dans le genre passer mes jours et mes nuits à faire quelque chose. Voilà.
On y reviendra quand même à ce côté militante. Donc Colette Berthès, le livre s'appelle « Une infinité de matins ». On va plonger dans l'histoire dans quelques minutes, qui j'imagine, avec ce que vous venez de dire, est un peu aussi... une part de votre histoire. Vous avez,
oui,
vous avez
oui.
cherché dans
oui.
votre famille.
Tout à fait. Beaucoup d'anecdotes se rapportent à des situations de ma famille ou d'amis ou de voisins ou de gens que j'ai connus ou dont j'ai entendu parler. Oui, jusqu'aux années 70 et même après d'ailleurs. Hein. Et le reste s'y rapporte aussi par des gens que j'ai rencontrés ensuite et qui m'ont fait leur confidence ou qui m'ont...
Et, voilà. que vous avez vécu en direct, parce que moi, dans le livre, j'ai retrouvé des épisodes que j'ai vécu moi-même.
Voilà, hein, tout à fait.
Du côté
et que j'ai vécu
Roque.
En direct, à Puy-la-Roc, à Verdun-sur-Garonne, voilà. Des choses comme ça. Et où là, j'ai mis mes héros qui avaient toutes tout à fait le droit et même le devoir d'y être.
Alors, on va parler dans quelques minutes d'Une infinité de matins aux éditions de Boré. Donc, Colette Berthès, vous restez avec nous, vous êtes notre invitée fil rouge. Une infinité de matins, c'est le livre qui est venu nous présenter notre invitée fil rouge, Colette Berthès. Il est paru aux éditions de Boré. C'est un roman. C'est un roman qui raconte donc l'histoire d'une famille de paysans du Quercy qui traverse le siècle, quoi, en fait. Hein. C'est ça, Colette Berthès.
1900 à nos jours. Voilà.
Alors, l'histoire commence de nos jours par un fait divers. Eliette, 64-65 ans, c'est la fermière qui habite cette ferme qu'un huissier est venu saisir, tout simplement.
Sa ferme, les animaux, tout ce qui reste de sa vie, en fait. Et donc, ce qui a été sa vie et celle de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres.
Alors, sans spoiler, parce que c'est dès le début, hein, elle prend en otage l'huissier qui est venu lui signifier la mise en demeure, etc. Et il va y avoir son petit-fils, David, qui va venir passer la nuit avec elle, avec les gendarmes qui vont être dehors, mais les copains agriculteurs aussi qui vont faire front avec elle. Et pendant cette nuit, elle va sortir les albums photos, l'album de famille, et raconter son histoire à son petit-fils.
Oui, j'ai pris le prétexte de photos, très peu de photos en fait, 5 ou 6 photos, et chaque photo étant la photo d'une génération de cette famille, qui est donc la première en début du XXe siècle. Et à partir de cette photo, Eliette va raconter l'histoire de la famille, à partir de ces photos. Donc ça remonte à son grand-père, qui lui-même, à certains moments, va parler aussi de ses parents. Donc en fait, on part des années 1880, en gros, jusqu'à 2015, jusqu'à nos jours. Et on va égrener non seulement l'histoire d'une famille avec les mariages, les deuils, les naissances, les disputes, tout ce qui se passe en famille, mais aussi à travers cette famille, l'histoire de l'agriculture,
oui,
l'évolution du monde agricole, ceux qui ont accompagné cette évolution, ceux qui ont essayé de la freiner, l'histoire des syndicats qui se sont créés autour de cette évolution, l'histoire des luttes qui ont été menées depuis les années 20, hein, puisque ça n'a pas débuté avec le Larzac, la lutte agricole, elle a débuté bien avant. Donc ces luttes aussi, des crises qui ont traversé cette agriculture, et aussi de l'histoire, parce que en arrière-fond, il y a bien sûr l'histoire avec un grand H qui est là, et en particulier la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, dont on parle beaucoup moins souvent, et puis d'autres choses qui se sont passées ensuite. Voilà.
C'est sur le rythme d'un siècle, et oui, on sent bien quand même dans votre écriture que il y a une lenteur quand même, hein, jusque dans les années 60-70. Il y a la lenteur de la ferme qui vit quotidiennement avec presque le soleil. Il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas, l'eau courante arrive très tard. Donc il y a une très forte accélération à partir des années 60-70.
Oui. Mais on la sent dans le livre aussi, oui, de toute façon, oui, dans ce qui se passe. Hein.
C'est ça.
Tout semble aller plus vite et tout va plus vite.
Et la famille change, la cellule familiale,
oui,
change.
Oui, on passe de la famille élargie, qui était souvent la règle à l'époque jusqu'aux années 60, où on gardait les parents, les grands-parents, les beaux-parents à la maison, à une famille plus resserrée, et aussi qui vit différemment de ce que vivaient leurs parents ou leurs grands-parents, avec des femmes qui veulent vivre, même si elles restent à la campagne, qui veulent avoir le confort, qui veulent aussi,
oui,
sortir, qui veulent, voilà, il y a toute cette évolution aussi du côté du monde des femmes.
Oui, parce que Colette Berthès, ce sont des femmes qui se transmettent cette ferme.
La terre se transmet par des femmes, ouais, dans cette maison, comme à beaucoup d'endroits.
Pourquoi ce choix d'ailleurs, tiens ?
Eh bien, d'une part parce que j'en ai connu, ouais, dans ma famille, plusieurs, et qui emmenaient les terres et qui emmenaient l'argent ou qui avaient plus d'argent que leur mari au départ, voilà. Et que ça m'intéressait de montrer que finalement les hommes étaient absorbés et devenaient partie prenante de ces familles, même s'ils étaient étrangers, parce qu'en plus il y a des étrangers qui rentrent dans la famille.
Et oui, il y a des Espagnols.
Espagnols,
catalans,
et puis des gens du Nord, c'était aussi des étrangers à l'époque. Hein, on ne les aimait pas Bon, plus, moins même.
Le père, à l'époque, n'a pas peur de donner sa fille à un étranger, tout en sachant que ça va faire jaser. Là, on est dans les années...
20, dans les années 20, bien sûr, ça faisait jaser. Bien sûr, ce n'était pas encore très commun, mais c'est arrivé.
Parce que c'était de la terre qui allait partir à des étrangers aussi.
Tout à fait.
Il y a cette idée aussi de un peu de racisme.
Oui, enfin, c'était... On était aussi raciste entre guillemets envers les gens venant du nord, puisque le gendre suivant qui vient du côté de l'île est accueilli à peu près de la même façon par certains, hein. Et pire même, parce qu'il ne parle pas la même langue, alors que le catalan parlait la même langue. Ouais. Donc finalement, le catalan était mieux accepté que ne l'était quelqu'un du nord. Ça, c'est des choses que j'ai connues aussi, mais qui s'intégraient aussi, parce que l'anecdote que je raconte à propos de ce gars du Nord qui apprend l'occitan, qui apprend le patois et qui en devient, c'est quelqu'un que j'ai connu.
Oui, quelqu'un qui dans votre famille.
Alors, pas dans ma famille, mais d'accord, qui est arrivé comme ça du Nord, et pendant la guerre, tout jeune, qui n'est jamais reparti, et qui s'est marié avec la fille de la maison, qui était héritière, et qui s'était mis et qui parlait, qui ne parlait que patois, qui avait oublié complètement son ch'ti du Nord.
Une infinité de matins, c'est le roman que nous présente aujourd'hui Colette Berthès. Vous restez avec nous, je vous reprends un peu plus tard dans cette émission. Dans Une infinité de matins, paru aux éditions de Boré, Colette Berthès raconte dans ce roman donc un siècle d'une famille paysanne des Causses du Quercy. Avec évidemment les changements. Au départ, on est sur ce qu'on appelle la polyculture d'élevage. Il y a un compte à la banque, il y a une boîte dans la cuisine et il y a un magot qui est planqué.
Et c'est ce qui se faisait la plupart du temps. On ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Les jeunes avaient souvent un compte en banque, mais les vieux gardaient leur... Les femmes avaient leur petit compte à elles aussi pour acheter leurs petites affaires avec la basse-cour, les lapins. Et ça, je l'ai connu jusqu'à très très longtemps. De toute façon, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas avoir un compte en banque séparé du mari. Donc, elles avaient leur cagnotte à elles, qu'elles cachaient, elles dissimulaient de l'argent souvent.
Alors, Colette Berthès, les femmes, elles sont très très présentes dans votre roman. Elles sont très présentes à la ferme. Mais ce n'est pas encore l'égalité homme-femme.
C'est vrai que les femmes avaient surtout beaucoup plus de travail que les hommes, parce qu'elles n'avaient jamais une minute de repos. Moi, je me souviens de ma tante de 5h du matin à 10h du soir. Mais en même temps, et puis pour les grandes décisions, c'est les hommes qui décident. Plusieurs fois, on l'entend dans le livre, le maître. Voilà. Mais ça a commencé à changer aussi dans les années 60, quand la télévision est arrivée, quand des gens sont arrivés d'ailleurs. Ça avait déjà commencé à changer après la guerre, mais quand des gens sont arrivés d'autres régions et se sont installés, et il y a eu une forte influence des gens venant d'autres régions, même si on les critiquait, on les regardait, on écoutait ce qu'ils disaient, et ça a emmené pas mal de changements.
Ce qui est concomitant à ce changement, à ce modernisme, à l'agriculture qui va devenir, enfin la ferme qui va devenir l'exploitation
agricole,
c'est le prêt bancaire. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du bouquin, la famille, le prêt bancaire, elle ne veut pas en entendre parler, quoi. Et puis, évidemment, pour le modernisme, pour acheter les tracteurs, pour...
partir des années 70 aussi, 60-70, ils sont obligés d'en passer par là, ils sont obligés.
Et ils se mettent le couteau sous la gorge au passage.
Et beaucoup vont couler à cause de ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons, pas la seule, mais qui feront que Eliette, à la fin, se retrouvera sans rien. Non seulement les prêts qu'on ne peut plus rembourser. Bon, il y a eu la maladie, entre-temps, il y a eu autre chose. Mais,
à un moment, c'est la loi de Murphy, quoi.
voilà, exactement. Donc, ça s'accumule au bout d'un moment. Quand on commence à glisser, la pente est très, très, très raide. Mais, en effet, ça a tout changé. Ces prêts, ça a changé exactement comme pour les gens qui ont commencé à faire des prêts pour acheter des maisons ou des appartements, ce qu'ils ne faisaient pas avant. C'est sûr, c'est vraiment le tournant, c'est les années entre 60 et 70.
Voilà, avec cette fameuse politique agricole commune. Oui. Et là, on va rentrer dans tout un univers de lutte que vous racontez. Alors, vous racontez bien sûr la lutte du Larzac, mais plus proche de nous, et ici, en Tarn-et-Garonne, à Puy-la-Roque, dans les années 2000.
Un peu plus, enfin, je ne sais plus exactement la date. Est-ce quand on voulait qu'un fameuse porcherie industrielle devait se construire et que voilà, qu'il y a eu une grosse opposition à cette porcherie industrielle.
Et puis aussi les faucheurs volontaires contre les OGM.
Voilà, donc plusieurs fêtes se sont tenues, les premières d'ailleurs à Verdun-sur-Garonne et dans la région. Donc il y a eu un gros noyau de lutte ici. Hein.
Et au travers de ça, vous racontez justement la création des différents syndicats, que ce soit la FNSEA, mais aussi la Confédération paysanne, les jeunes agriculteurs.
Le MODEF.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne connaissais pas forcément les filiations d'un syndicat
que l'un
sur l'autre.
Est sorti d'un autre et qu'il y a eu des opposants. Parce qu'au début, ils étaient tous dans le même, qui avait été le grand syndicat, la FNSEA, créé après la guerre et qui était un syndicat de changement. Parce que tous voulaient aussi du changement et des choses nouvelles et que les paysans puissent vivre correctement au départ. Vous voulez ça?
Alors oui, c'est vrai, parce que ça a l'air idyllique avant les années 60, mais bon...
Mais c'était pas idyllique du tout. Non.
C'était dormir 5 heures par nuit et puis bosser tout le temps.
Voilà, c'était pas idyllique. Il y avait pas l'eau dans les maisons. Enfin, sur le COS, en tout cas, il est arrivé en 64. C'était pas idyllique du tout.
Une infinité de matins... Alors, on laisse au lecteur découvrir pourquoi le roman s'appelle comme ça, parce que là, il ne faut pas spoiler.
Non.
Colette Berthès s'est parue aux éditions De Boré. Alors, si on n'était pas en plein Covid, il y aurait des signatures
Il y en a encore quelques-unes, j'en ai faites, oui. Sur le marché à Grisolles, j'en ai faites, à Leclerc, à Montauban, dans le Tarn récemment. Je vais en faire prochainement encore dans des librairies, ça... Ouais. Il y en a moins qu'avant, il y a moins de salons qu'avant, mais je suis à Montclar aussi qui a très bien marché, salon qui a très très bien marché, il y a fin août, donc il y a encore des choses qui se font, heureusement.
Heureusement. On continue de parler avec vous dans quelques minutes, Colette Berthès. Suite et fin de notre interview fil rouge avec Colette Berthès, autrice de Une infinité de matins aux éditions De Boré, un roman qui vous fera replonger dans la vie paysanne tout au long de ce siècle et qui vous rappellera les paysages que vous avez pu voir lorsque vous étiez enfant.
Et puis encore quand on va se balader,
oui, tout à fait.
Puisque le village imaginaire que j'ai inventé est entre Caussade, Sept-Fonds, Saint-Antonin.
Ouais, j'ai eu du mal à le cerner un petit peu.
Il est fait de plusieurs villages, mais il est dans ce coin-là, quelque part, il n'existe pas, mais on peut le retrouver n'importe où.
Bon, vous nous avez dit tout à l'heure, vous étiez à la manif contre la porcherie à Puy-la-Roque, à l'époque. Vous étiez à d'autres manifs
Faucheurs volontaires au départ.
Vous avez eu une faucille dans la main, vous y êtes allé?
Alors je suis allée, oui, à la première, bien sûr. J'ai ramassé mon épi, comme tout le monde. Quand je décris la scène, là, c'est tout à fait ça. Et oui, on était très nombreux.
Racontez ça dans ce roman, c'est important pour vous. Est-ce que c'est la continuité justement de votre militantisme, même si vous dites que vous militez pas tant?
C'est important pour moi pour montrer simplement qu'il y a eu de noms, qu'il y a eu des gens ordinaires qui ont fait ce genre de choses, parce que le jour tous n'étaient pas des militants syndicaux ou paysans. Il y avait beaucoup de sympathisants ce jour-là, par exemple, des familles avec des enfants qui étaient venus, des gens qui ne voulaient pas d'OGM tout simplement, mais qui à l'époque ne militaient pas spécialement, mais qui sentaient qu'il y avait un danger par là. Et c'était aussi une grande fête, donc beaucoup de gens de tendance écologiste, c'était les débuts, étaient venus à cette fête-là.
Je voulais justement parler de votre côté militante. Vous êtes sur beaucoup de causes. Vous nous avez dit tout à l'heure Odell Barnes dans les années 2000.
Oh oui.
Je sais que vous êtes aussi sur l'association France-Palestine.
Oui.
Vous avez ce côté-là d'être à un moment dans l'action, de dire je fais quelque chose.
Plutôt ça, oui. Ouais. Alors les Américains ont un mot, même si on ne faut pas trop américaniser tout, qui dit activiste au lieu de militant. Et j'aime bien ce mot-là parce qu'en effet, il m'arrive à des moments d'être dans l'action et d'être vraiment dans l'action et à fond. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'y suis à ce moment-là, je ne vais faire que ça tout le temps. Je ne peux pas, je n'arriverai pas à me polariser sur une seule cause.
Une zadiste
Peut-être pendant 6 mois ou 1 an, mais je ne me verrai pas faire le... Voilà, je suis trop sollicitée, j'ai par trop de choses, je pense, ce qui ne m'empêche pas de continuer après différemment. Mais oui, je suis plus sur des actions concrètes quand on a besoin de gens ou de personnes ou d'actions à certains moments.
Ça vient d'où, ça?
Ça vient d'où? sans doute de l'enfance ou je sais pas, quand j'étais, oui sûrement de l'enfance et de tous les romans que j'ai lus d'aventures et autres qui me faisaient rêver. C'était une époque où j'avais envie de devenir exploratrice pour justement être dans l'action sur des choses nouvelles ou bien de défendre des causes complètement perdues. Puisqu'à l'époque, c'est à cette époque, quand j'avais 8-9 ans, je rêvais de vivre dans une tribu indienne des États-Unis. Donc, c'était vraiment des causes perdues, quoi. Ouais. Plutôt ça, peut-être, oui.
Bon, et est-ce que vous arrivez de temps en temps à être du côté des vainqueurs?
Je suis contente quand les vaincus d'abord peuvent s'exprimer, luttent et finissent par quelquefois obtenir aussi certaines choses. Mais comme je dis, ça n'est jamais gagné, c'est toujours remis en question. On le voit même actuellement hein, avec toutes les nouvelles lois et toutes les nouvelles choses qu'on nous pond chaque jour. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit.
C'est un état d'esprit. Ça devient plus compliqué aujourd'hui d'être militant ou pas ? Avec la crise qu'on traverse, avec tout ça.
Ça devient plus compliqué parce que beaucoup de gens ont peur, d'une part. Et donc, quand on a peur, on agit moins, du moins au début. Mm-hmm. Donc, on n'a pas réfléchi. Beaucoup de gens aussi craignent pour ce qu'ils ont. Plus on a de choses et plus on a peur de les perdre. Il est sûr que ça freine aussi beaucoup. Donc, oui, c'est un peu plus compliqué. Puis, il y a tellement de moyens de propagande, je dis bien de propagande, qui font que les gens entendent tous les jours la même chose et que ça finit par imprégner, même si on ne le veut pas, que c'est peut-être plus difficile de réfléchir, de vraiment réfléchir, de vraiment prendre des décisions, de vraiment savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, ce qui est exagéré, ce qui est faux. C'est plus compliqué, oui.
Oui. Merci Colette Berthez d'être venue nous présenter votre dernier roman, Une infinité de matins aux éditions de Boré.
Merci de m'avoir reçue et bonne fin de journée à tous.
Au revoir.